Allons-y.
Dans le bureau de Par Jupiter, Juliette et Guillaume travaillent.
Appel à toutes les voitures, je répète, appel à toutes les voitures.
Mais c'est François qui gueule comme ça.
Mais qu'est-ce qu'il comprend pas dans le métier de réalisateur exactement là?
Enfin, c'est fou ce besoin d'attention, non?
Réunion d'urgence au PC Sécurité, je répète, réunion d'urgence tout de suite.
On est là, François, tu peux arrêter avec le mégaphone, s'il te plaît là?
Mais oui, papa et maman t'écoutent.
Voilà, ça
non,
va.
Là, là, t'es trop, je suis en colère.
Bon, si t'arrêtes pas avec ce jouet, François, je me fous en grève.
Pardon? Non mais c'est moi qui vais me foutre en grève.
Quoi?
Qu'est-ce que c'est de cette organisation qu'on comprend rien là?
À laquelle on ne comprend rien. Enfin bref, passons. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, François?
Mais enfin, c'est le troisième jour de la semaine et le troisième duo d'animateurs différents. On a eu Charline Juliette, Alex Charline, maintenant Guillaume Juliette. Mais vous voulez tuer les auditeurs ou quoi?
Non, mais c'est que ça. Mais respire un peu là. C'est ça le monde des grands. On s'adapte, on est fluide, on change, on propose. Ça, voilà.
Non mais vous deux là, pour un bar jupli classe,
oui.
Sérieusement?
Mais oui.
Les deux camps qui tiennent le radiateur qui vont faire la classe. Non mais à quelle heure? En fait,
bah de 17h à 18h.
Quoi? Enfin, voilà. En vrai, précisément, c'est de 17h07 à 17h59 et des bananes.
Oui, vous avez tout à fait raison, madame la directrice.
Ouais.
Ah là, mais c'est vrai, en fait, les mômes, ils sont pas fanatiques du second degré, en fait. Hein.
Allez, François, mon petit chat, ce que tu vas faire, c'est que tu vas respirer.
Voilà.
Respire.
Ouais.
Voilà. Et puis tu souffles dans ton mouchoir.
Ouais.
Allez, la narine gauche, l'autre
voilà,
narine gauche.
Voilà. Et tu vas laisser les grands jouer à leur jeu de grands, d'accord? Allez, mon Juju, on fait quoi maintenant?
Bah moi franchement, j'ai pas trop envie de travailler.
Non,
on leur collerait pas une interro surprise?
Oh, c'est une bonne idée ça, ouais. Allez,
ouais.
Thème, la guerre c'est mal. Oui ou ça dépend. Allez, ça part, on y va.
Oui.
Oh, mais Charline me manque.
Reviens. Allez.
Reviens, Charline.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission qui est à l'image des sondages. Ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Et la devise du jour est « Le savoir est une arme, bébé, ne l'oublie jamais ». T'inquiète, Stomy, Guillaume Meurice, copilote l'émission.
Guillaume, très exactement, ça se prononce comme ça. Juliette Arnaud, bonjour. Justement, Juliette,
oui,
vous allez nous parler de Marceline Desbordes-Valmore aujourd'hui. Vous nous avez parlé la semaine dernière de son poème « Les séparés ». J'ai envie de dire « Vive la vie, vive la poésie ».
Je peux te dire un court poème?
Oui.
Le ciel.
C'est joli.
Je suis pas très sûr du début.
Ensuite, on retrouvera celui qui a été élu chroniqueur préféré des Français, selon un sondage réalisé auprès de sa mère. C'est moi. Et alors, aujourd'hui, les amis, je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Guillaume Meurice. Enfin, qui se fait passer pour Guillaume Meurice, vu qu'il a une page internet à mon nom et qui demande de l'argent aux gens. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appelé.
C'est moi, ne craignez rien.
Non, je crains rien. A priori, c'est bien lui. Et enfin, on retrouvera pour la masterclass de cinéma du jour notre maestra Cécile Meurice. Maître Chabrol, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Elle est là. On nous a dit que vous y connaissiez un petit peu en cinoche.
Un petit peu.
Bon, on va vérifier ça, on va voir. Vous allez nous parler de Maigret, la dernière version de Patrice Lecomte. Vive les enquêtes policières.
Vous n'avez touché à rien?
Si. Si, on a tout touché dans la chambre sans mettre de gants. On a lavé la victime à l'eau de Javel et on s'est coupé les ongles dans la pièce. Vous voyez pas?
Ouais, ça va être incroyable, d'autant que c'est pas fini. Juliette, quelle équipe avez-vous composée aujourd'hui?
Avec
des effets spéciaux, c'est incroyable.
Avec eux, apprêtez-vous à rentrer dans une nouvelle dimension où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La quatrième dimension.
Oh là là.
Avec d'abord bien sûr son patron, et vu l'état de surchauffe permanent qu'il habite, il peut très bien passer au milieu d'une chronique à la cinquième dimension, voire la sixième. Bonjour Hippolyte Girardot.
Ah bonjour l'équipe, je vais vous parler de la Fédération française de la Grande Russie en 2034.
D'accord. Je sens que ça va être
on
tout
commence
à fait
déjà charmant. La cinquième dimension.
Ouais, dit direct. Ensuite, la maîtresse des sortilèges, son préféré de sortilèges, proposer des comptines pédagogiques et charmantes tout en pensant, comme Houellebecq, que l'enfant est une sorte de nain vicieux. Bonjour Yédré.
Bonjour, je suis tout à fait d'accord avec cette description.
et c'est de ça dont vous allez nous parler aujourd'hui?
Je vais apprendre aux nains vicieux comment rester utile à la société, même quand plus personne n'a besoin de nous. Parce que c'est important de se sentir utile.
Mais bien sûr. Oui. Demandez à Guillaume Meurice.
Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que
voilà.
C'est important.
Et ça vous manque. Et enfin, avant ces chroniques, vous pensiez pépou tout ce que vous saviez parler français. Après elle, votre cerveau se trouble. Le savez-vous vraiment? Bonjour Alia Véron.
Bonjour Juliette. On va parler de troubles dans le genre et de grammaire aujourd'hui.
Oui.
Oh là là.
Et c'est parti pour la Sainte Françoise avec un journal qui les règles de l'objectivité ratiboise, des exercices à la moralité sournoise et un dessin qui jamais ne sent bourgeoise pour une émission d'urmeur narquoise, bien sûr.
Oh, Laurence Inter. Alors, non, attendez, comme ça change beaucoup en ce moment, attends, il y a lui? Non, il y a elle? Ah, je sais plus. En tout cas, ils sont deux à présenter par Jupiter.
Non, Jupiter. Oh, voilà.
C'est compliqué.
C'est vrai que c'est pas simple.
Mais on est une équipe, on a un collectif aussi, c'est ça la force de l'émission.
Oui, mais je pense que les gens le sentent.
Les gens le sentent.
Cécile Mestre-Chabrol, bienvenue dans l'équipe. Alors, je rappelle aux auditeurs, on vous a reçu il n'y a pas très très longtemps. Vous étiez venu pour un livre qui s'appelle Torremolinos, qui est publié chez Jean-Claude Lattès. Vous racontez une vie de cinéma entre une mère monteuse, un père acteur, un beau-père réalisateur, Claude Chabrol, et vous-même dans presque tous les métiers possibles sur un plateau. Comment il a été reçu ce livre?
Bah écoutez, ça va, il se porte bien. Il va commencer une deuxième vie en Belgique, là. Ça commence à frichetouiller et il essaie de continuer à vivre au milieu de cette deuxième rentrée de janvier et ces 385 romans qui envahissent les tables et tout d'un coup. Donc j'essaye de le faire comme ça, qu'il reste un petit peu.
Alors, comment on fait justement pour qu'un livre il continue sa vie, que ça ne s'arrête pas au moment où ça sort? Vous allez en librairie?
Non, oui, enfin, je vais partout là où on me demande d'aller. Mais non, surtout, j'en parle, j'essaie de, je sais pas, d'envoyer des messages subliminaux et de...
Ah, ça va pas être suffisant, Cécile.
Non, mais c'est un gros travail, c'est un gros travail de fond. Non, je plaisante. C'est juste qu'il y a beaucoup de livres et il faut, voilà, que les gens achètent Torremolinos. C'est surtout, il faut leur donner envie, là, maintenant que j'ai cette tribune, de l'acheter.
Eh ben alors, allez-y.
De le lire.
Non, menacez-les physiquement. S'ils n'achètent pas ce livre, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ça marche bien.
C'est vrai. Ou je pourrais peut-être... Je sais pas, c'est pas très inspiré.
Non, en tout cas, c'est un livre qui permet de comprendre comment ça se passe un plateau de cinéma vu de l'intérieur.
Oui, entre autres, oui, c'est vrai que ouais, j'essaie de raconter ça de l'intérieur, des coulisses d'une enfant qui vit dans ces milieux du spectacle, d'une jeune fille qui se construit toujours amoureuse des acteurs. Et puis comment ça se passe sur un plateau, oui, Hippolyte. Oui.
Non, mais c'est un livre
vous
aussi.
Là.
Oui, c'est un livre très drôle. Ouais, il y a beaucoup d'humour, donc il faut le savoir, il faut le dire. Quand
même. Mais c'est difficile, moi, je trouve, de parler de son
on
propre livre.
On rigole beaucoup avec votre bouquin.
Ouais, c'est vrai, on rigole.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai, on rit beaucoup et on est ému aussi parce que c'est vrai, vous faites que ce soit le portrait de votre maman, de votre père et de votre beau-père. Il y a des moments qui sont drôlement émouvants. Et puis je crois que vous êtes parti dans un projet plus collectif parce que le livre, finalement, c'est une chose, un plaisir de solitaire, un projet plus collectif, mais en Belgique. Bon, ici ça va, ça nous connaît. La Belgique, je veux dire. De quoi s'agit-il?
Ah, c'est un projet qui s'appelle Blessure de femme. C'est porté par une photographe qui s'appelle Catherine Cabrol. Il n'y a pas de hasard.
Bien sûr.
Et c'est, mon travail consiste à recueillir le témoignage de femmes qui ont été violentées, toutes sortes de, tout ce panel de violences comme ça. Et des femmes belges ou vivant en Belgique. Et ensuite, Catherine fait leur portrait. On fait une belle expo de ça. Et moi, le projet m'a beaucoup plu parce qu'ensuite, ces témoignages de femmes sont portés sur une scène, sont lus sur une scène par des acteurs, par des hommes. Et je trouve qu'il faut absolument mêler les hommes à ce combat, même si bien sûr les femmes qui sont violentées sont à 97% violentées par des hommes. Mais néanmoins, je trouve qu'il faut les amener avec nous. Je me suis fait engueuler par une féministe assez radicale qui disait que les hommes devaient s'éduquer. Moi, je pense qu'on doit aussi les éduquer, qu'on ne va pas attendre encore des années et des années pour faire comprendre aux hommes ce que c'est que les violences. Nous, on sait, les femmes, et je trouve qu'il faut les inclure et que les voir sur scène comme ça, c'est aussi être peut-être gageur qu'il y aura des hommes dans la salle et pas que des femmes, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce projet.
Bon, et ça sera des acteurs professionnels?
Des acteurs professionnels, néanmoins bénévoles.
Bon, alors lui, je ne sais pas tellement s'il est bénévole comme acteur.
Pas toujours.
Oui, ça dépend des fois, oui.
Je fais des cadeaux, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas mal, parce que tu vois, si on entend une parole d'une femme dite par un homme, il y a quelque chose qui s'opère chez les spectateurs hommes, effectivement.
C'est assez fort, je crois. C'est assez fort.
Ouais.
Il cherche une place dans la.
Non, pas du tout.
Il galère un peu au niveau du
tout. Je trouve que ça marche très très bien.
Pour ça, il vient faire des piches chez nous, mais on sent que.
Non, elle l'a fait avec Higelin, je crois que c'était dans un théâtre, à la Sorbonne ou je sais pas quoi. Higelin, disant je m'appelle Malika, j'ai 9 ans, j'avais 9 ans quand mon père est rentré dans ma chambre, ça fout un peu les poils, ouais.
Ouais, moi je pense, ouais. Surtout avec la voix de Jacques.
Bah évidemment. Bon, on a hâte de voir ça. Hippolyte, puisque vous êtes en train de parler et que vous avez une très belle chemise, je vous dis.
Une fois que je suis habillé correctement.
Je vous lance comme un boomerang.
Allez-y. Ok.
Oh là là.
Boris, présent. Natacha, présente. Nikolai, présente. Charlie Ninkaya. Quoi? Elle est malade? Bien sûr, le jour du contrôle, comme de par hasard. Tiens, je vais lui mettre un point bleu, tant pis. Quoi? Boris, quoi? Elle est vraiment malade? Mon petit Boris, tu as encore 1000 choses à apprendre, gamin. Elle est vraiment malade, mais qu'est-ce que tu en sais? Elle te l'a dit, tiens, donc bien sûr. C'est Charlie Ninkaya qui te dit la vérité sur Charlie Ninkaya maintenant. Boris, admettons même que tu aies eu sous les yeux son bulletin de santé qui dirait noir sur blanc que Charlie Ninkaya est malade. Comment saurais-tu, toi, si ça n'est pas un faux document? Une des premières choses que vous avez appris tous ici en entrant à l'école n'est-elle pas toujours de vérifier toute information qui ne venait pas de l'école? Oui? Non? Boris? Oui? Non? J'entends mal, mon petit Boris, j'entends mal. Et ça, c'est la vérité pour le coup. Oui? Non? Ne t'a-t-on pas appris que la Pravda ne sortait que de l'école de la Pravda? Boris? Qui était... Da? J'ai bien entendu, c'est bien, bon. Et alors, tu l'aurais oublié cette vérité? Non, bien sûr que non. Donc, quand Charles Ninkaya te dit avec sincérité qu'elle est malade, la première chose face à ça, Boris, c'est de ne pas la croire. Toutes ces soi-disant preuves qu'elle nous donne sont probablement des faux, habilement trafiquées pour abuser ton jeune esprit, Boris. Pourquoi je dis ça? Bah, c'est dingue ça. Pourquoi moi, Hippolyte Ditovitch, Pavel Girardov, je dis ça? Parce que je connais les ruses de l'ennemi et surtout celui de l'ennemi intérieur. Le jour du contrôle, Charlie Ninkaya Filipovitch Vananouski nous annonce qu'elle est malade, égale un mensonge, une manipulation, peut-être une trahison. Ah oui, une trahison. Tant que je te tiens, mon petit Boris, tiens, on va faire un exercice. Dis-moi qui était Napoléon. Oui, Napoléon, oui. Allez, vas-y. Oui, Napoléon, cours de 7e, section vérité, honnêteté et bonne foi, avec monsieur William Skaya Petrov Maurice Kayov. Tu t'en souviens quand même, non? Oui, c'est vrai, ça remonte à avant la redemance. Mais bon. Alors, Napoléon, je t'écoute. Un terroriste, oui, oui. Un tout petit bonhomme d'une toute petite île, oui, tout à fait, tout à fait. Venu en touriste à Moscou, ben exactement, exactement. Ayant mal éteint sa cigarette, mais ben tout à fait, Boris, tout à fait. Ayant fui lâchement les lieux avant l'arrivée des pompiers, mais exactement, mon petit Boris, tu vois quand tu veux. Tu la connais, la vérité. Je te concède que William Skaya n'est pas le pire des enseignants de la Prada, mais tu as quand même retenu la leçon. Et je peux te dire qu'à l'époque, le Napoléon nous a servi une toute autre version, rien à voir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Boris? Un grand homme? Napoléon? Attends, Boris. Boris, je t'aime, hein. Je t'aime, mais attention. Quelle taille faisait Napoléon le grand homme? Ah oui, il était tout petit. Voilà, tout petit. À peine. Qu'est-ce que tu dis, Boris? À peine la taille de qui? Poutine? Boris, je vais te mettre un point bleu. Bleu comme tes lèvres quand tu seras mis au coin, non pas de la salle de classe, mais de notre patrie bien-aimée, là-bas, vers le permafrost. Parce que la vérité, Boris, c'est que les centimètres de l'époque de Napoléon et ceux de l'époque de notre dirigeant naturel ne sont pas du tout les mêmes. C'est dans la Plaza, ça!
Ça fait peur, Hippolyte Girardot.
Non mais là c'était pour les enfants, je l'ai pas fait pour les adultes.
Oui, mais je pense que les enfants ils ont bien compris. Mais même la musique, les éduques là.
Ah oui,
très
bien.
Ah, faut se préparer.
Allez, on va passer. Maintenant on va écouter une toute autre sorte de musique. Je ne sais pas si vous connaissez D-Roy Wilson, Funky Broadway sur France Inter.
Ça fait moins peur.
Hein?
Ça fait du bien.
Ouais, c'est plus dansant.
Plus bon enfant.
Voilà. c'était Derek Wilson, Funky Broadway. Vous écoutez par JupiClass, il est 17h20 classe, 20h20 classe. Vous écoutez JupiClass,
il est l'heure d'aller se coucher.
Je vais aller me coucher, mais d'abord, place à l'information.
Oui.
Nous sommes en guerre.
Le journal de presque 17h17.
Bien sûr que c'est dur, bien sûr que c'est compliqué. Donc le grand enjeu d'abord, c'est de réussir nos objectifs, c'est-à-dire avoir l'école ouverte au maximum.
Et on commence par les titres, bien
dans
sûr.
Dans ce journal, on parlera de la campagne de Vladimir Poutine.
Alors, on jouera donc dans le misanthrope.
On parlera aussi du patrimoine financier d'Éric Zemmour.
Alors, on basculera dans l'avare. Mmh.
Ouais. Et enfin, on parlera de la famille Fillon.
Mais non, on parlera pas du tout des Fillon. Non, c'est parce que vous voulez parler de Arrête de pleurer Pénélope.
Non,
c'est moche.
Non, c'est pas vrai.
Vous me dégoûtez. C'est pas bien. C'est de l'abus de bien social. C'est que l'argent des Français. C'est un scandale.
Et on commence par la guerre en Ukraine.
Oui, un rapport de la CIA décrit Vladimir Poutine comme une personne en colère.
Oui.
Sacré profiler, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont ajouté avec une nette tendance à être un peu grognon.
Oui, voire ronchonchon.
C'est ça. Moi, je suis pas à la CIA, mais j'aurais dit quasi soupolet.
Mais
j'aurais
vous pourriez être à la CIA, Guillaume. Oui. Vous êtes brillant.
Allez, on passe à quelqu'un de brillant également.
Non. On va parler d'Alexis Corbière.
Ah oui, donc non, rien à voir.
Alexis Corbière était sur France Info et il est revenu sur les livraisons d'armes à l'Ukraine.
Vous parlez des armes françaises, franchement, c'est des gilets pare-balles et quelques missiles anti-chars. Mais pour
vous avez la liste, vous, des...
Pardon ?
Vous avez la liste des armes fournies par la France ?
Eh bien, je vais vous dire, je siège à la commission défense et armée, et je ne dois pas vous dire.
C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on ne la connaît pas, vous venez de nous la donner.
Du moins.
J'avais cru comprendre qu'il y avait un secret défense sur cette question, mais je me suis peut-être trompé.
Écoutez, quoi qu'il en soit,
La France a livré des missiles.
Ce que je veux vous dire, c'est que le matériel.
Alexis Corbière, vous venez de le dire, les auditeurs, les téléspectateurs,
les auditeurs ont entendu des choses, mais non, mais qu'importe, c'est pas un. Je ne sais pas le détail.
Oui, on n'a pas. Voilà, non, on n'a pas les détails. Enfin, heureusement qu'Alexis Corbière, il bosse pas à la maison de la radio, sinon il dirait à tout le monde le code de la porte en bas, le 2602.
Mais non, Guillaume.
Quoi?
Vous venez de le dire. Là.
Mais non, j'ai pas dit le. Si. J'ai pas dit les détails. Bon, c'est autour de ça, un code à 4 chiffres, mais j'ai pas dit exactement. Non,
vous venez de donner les 4 chiffres à l'instant.
C'est pas la question. Allez, enchaînons.
On enchaîne. Les déclarations de patrimoine des candidats à la présidentielle ont été dévoilées.
Oui, et on souhaite bon courage à Valérie Pécresse.
Enfin, vous rigolez. Elle dispose de presque 10 millions d'euros.
Oui, mais vous savez combien ça coûte, une séance d'orthophonie, pour arrêter de parler comme ça? C'est cher, c'est très cher.
L'État vient de lancer une plateforme pour les particuliers qui souhaitent héberger des réfugiés.
Ah, enfin. Ah, ben, ça fait plaisir. Une très bonne nouvelle, notamment à Calais. Où
J'avais pas fini.
Ah, pardon.
Des réfugiés ukrainiens.
Ah, d'accord. Ah oui, donc à Calais, pour les autres réfugiés, c'est toujours 135 balles d'amende si on leur donne à boire.
Ouais.
Oui, d'accord, cool. Bah, oui, d'accord. J'ai eu peur que ce soit une bonne nouvelle, mais non.
Accusé de sexisme et d'agression sexuelle, Éric Zemmour s'est défendu en expliquant qu'il fait la vaisselle.
Oh là là.
Ouais. Non, mais attendez, jugez pas trop vite, c'est bien connu. Les mecs qui font la vaisselle, ils violent pas les filles. Regardez, monsieur propre. Aucune accusation, monsieur propre, jamais un geste déplacé.
Les affaires d'agression sexuelle qui visaient le prince Andrew, officiellement closes, grâce à un accord financier.
Eh ben lui, ça a dû lui coûter cher en liquide vaisselle aussi, tiens, j'ai l'impression.
D'après une nouvelle étude, l'Amazonie risque de se transformer en savane plus vite que prévu.
Je vois. D'accord, je vois pas le rapport en fait entre le...
Entre quoi et quoi?
Entre l'Amazonie et le gâteau, savane.
La savane, Guillaume.
Non, je vois pas.
Savane. Comme en Afrique.
L'Amazonie va aller en Afrique, c'est pas possible ce que vous dites.
Enfin, la Guillaume quand même, vous faites exprès.
Mais je sais bien que l'Amazonie c'est pas en Afrique, par contre ça répond pas à ma question sur le gâteau. Pourquoi ça devient un gâteau?
Bon, allez, on passe.
C'est compliqué.
Non, mais quand Charlie n'est pas là, vous suivez rien.
Bon, alors enchaînons. Parce
une
que...
étude publiée dans la revue Nature Communication montre que boire 2 bières par jour fait vieillir le cerveau de 10 ans.
Ouais, notre cerveau a donc officiellement 320 ans. Voilà. On assume, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà.
Merci Guillaume Maurice.
Merci Juliette Arnaud. D'ailleurs, je vous repasse la main, Juliette.
Allez.
Puisqu'avant les vacances, vous nous aviez présenté un poème de Marceline Desbordes-Valmore, la fameuse Marcelette, comme on l'appelait à l'époque.
Non, personne.
J'ai mes sources. Et vous nous aviez laissé en plan avec cette question. L'homme, dont elle est séparée, lui a-t-il finalement écrit? Alors la France veut savoir. Délivrez-nous du suspense, Juliette.
Eh bien, j'y vais. Oui. Donc, le poème n'écrit pas. Dans ce poème, Marceline Desbordes-Valmore lui demandait à cet homme, 8 fois d'affilée, de ne pas lui écrire. et le poème s'appelle Les Séparés, et ben ils sont pas restés séparés, il a dû certainement lui écrire, il est revenu, elle l'a repris, Marceline. Et si la question c'est est-ce qu'on peut rebriser un cœur qu'on s'est déjà employé à briser, la réponse est oui. On fait juste de plus petits morceaux. Alors, on me rétorquera que Marceline avait l'habitude, à 15 ans, elle avait perdu sa mère. On me rétorquera surtout que Marceline avait intérêt à s'y faire, parce qu'elle rencontrera plus tard un autre homme, un qui voudra faire sa vie avec elle, un qui ne lui inspirera pas le désir d'embrasser le ciel, mais qu'elle, elle est prête à rendre heureux. Ils auront 4 enfants que Marceline adorera, mais un seul de ses enfants lui survivra. Voilà l'explication de ce sobriquet douloureux. Notre-Dame des pleurs. Marceline pleure, mais Marceline écrit. Elle transforme ses larmes en cristal sonore. Comment la petite comédienne et chanteuse se met-elle à écrire? Et alors c'est là que ça devient un genre d'encouragement pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui ont envie d'écrire. Écoutez plutôt, sa santé est fragile et un médecin lui conseille d'écrire. Elle dit, elle, Marceline, qu'elle a essayé, j'ai essayé sans avoir rien lu ni rien appris, ce qui me causait une fatigue pénible pour trouver des mots à mes pensées. Et elle ne s'autorise pas, Marceline, à penser comme un poète et encore moins comme une poétesse, c'est juste qu'elle aime la poésie. Alors de cette contrainte, eh bien, elle va faire sa chance, elle s'autorise toutes les libertés. Pendant que les autres, les hommes, font des alexandrins, hein, le ver empereur, le ver à Poutine en gros, eh bien elle s'en libère gentiment et se lance dans le ver à 11 pieds, impair et audacieux, le ukrainien genre. Alors les poètes et les écrivains de son temps, la célèbre Honoré de Balzac évoque la spontanéité de ses vers qu'il associait, et je le cite, à des assemblages délicats de sonorités douces et harmonieuses qui évoquent la vie des gens simples. Notre-Dame du peuple aussi. Il dit aussi, Honoré de Balzac, nous sommes du même pays, madame, du pays des larmes et de la misère. Et puis Baudelaire, qui l'appelait la grande sœur des poètes romantiques, ou Verlaine, qui écrit, je le cite, « la seule femme de génie et de talent de ce siècle et de tous les siècles hein ». Alors si quelqu'un ne savait pas expliquer passif-agressif, eh ben c'est ça, c'est un compliment qui ressemble à un coup de pied de l'âne. Bon, il faut dire que Paul, tout merveilleux poète qu'il était, n'était pas un être riant. Hein. Il paraît qu'il lui arrivait de sourire, mais enfin l'humeur générale, c'était surtout qu'il pissait pas des arcs-en-ciel. Moins retors et touché par le cristal sonore de Marceline, Camille Saint-Saëns va mettre certains de ses poèmes en musique. Et puis au XXe siècle, 60 ans après sa mort, Stefan Zweig lui écrit une biographie à Marceline. On dirait presque une déclaration d'amour, ce livre. Écoutez-le un peu, Stefan Zweig, lui qui sent chez Marceline, je le cite, ce quelque chose de la mystérieuse magie des animaux, quelque chose de la grâce touchante des chevreuils, de la légèreté ailée des hirondelles, quelque chose de la beauté sans pareil des êtres sans défense, à qui la nature a refusé toute arme pour leur donner en compensation ce charme de l'âme qui s'appelle l'émotion et la compassion. La beauté sans pareil des êtres sans défense. Ben, j'ai hâte de voir la copie de certains de nos dirigeants quand je l'imposerai comme thème de la dissertation à la présidentielle. Merci, bisous, merci.
Merci Juliette Arnault et merci Marcelette.
Si, bien sûr que si, elle nous regarde certainement de là-haut. Merci beaucoup. Cécile Maistre Chabrol,
oui.
Vous allez faire notre masterclass de cinéma tout à l'heure, tout va bien?
Ouais, tout va bien. Je suis en train de me dire que j'ai vraiment très très bien vendu mon livre tout à l'heure. je suis vraiment très bonne.
Le débrief,
en étant bercée par les douces paroles de chèque, je me disais vraiment, t'es très bonne à ça. C'est vraiment ton truc, quoi, la banque. C'est vraiment bien. T'as été convaincante. T'as eu une opportunité comme ça. Parce que la réalité, c'est qu'une fois que c'est passé,
c'est foutu.
Là, t'as l'occasion. Et t'es nul à chier.
On a un appel de votre banquier qui dit arrêtez, madame. Voilà. Quittez, sinon ça va très bien.
Merci.
Tout va bien.
Merci, Guillaume.
Et bien voilà celle qui, si elle était un cocktail, serait un Bloody Mary. À l'œil, c'est ravissant. Et puis, on ne se méfie pas vu qu'il y a de la tomate, et un fruit, un légume, et un pan. Et puis tu te fais estourbir par la vodka, Guy Edré, go girl.
Allez les enfants. Là, tu es frais, tu es jeune, t'es fringant. Tu as la peau ferme et encore toutes tes dents. Mais bientôt, très bientôt, plus bientôt que tu ne le crois, tes dents vont tomber et ta peau sera flagada. Tu vas devenir vieux, tu vas perdre tes cheveux, tu vas baver partout, tu diras on n'est plus chez nous. Tu vas perdre la mémoire et tes capacités respiratoires, tu ne contrôleras plus tes sphincters, tu tu diras, ce qu'il nous faut c'est une bonne guerre. Bref, tu ne serviras plus à rien. Et c'est terrible de ne plus servir à rien. Alors quand viendra le temps, il faudra que tu dises à tes enfants de te mettre dans un EHPAD avec une jolie cour de promenade. Car au moins là-bas, on aura toujours besoin de toi. Là-bas, grâce à toi et aux autres petits vieux, plein de gens seront très heureux. Là-bas, les vieux, on en redemande, ça fait de super dividendes. Hébergement, établissement pour personnes âgées dépendantes, en voilà une façon charmante de dire donnez-nous votre pognon, les vieux c'est notre filon. Mais faudra pas que tu manges trop, pas pour plus de 4 euros, sinon les actionnaires seront tristes et c'est pas gentil de rendre les gens tristes. De toute façon, si tu manges plus que ça, tu vas beaucoup trop faire caca. Tu coûteras trop cher en couche, alors retiens-toi ou fais sous la douche. Et si la faim se fait trop forte, tu pourras toujours grignoter tes peaux mortes. Si tu trouves ça un peu difficile, dis-toi que tes sacrifices sont utiles. Pense que grâce à toi, le directeur d'Orpea pourra s'acheter des tas de choses. Et c'est tellement cool d'avoir des tas de choses. 1000 petits vieux qui sentent la pisse, c'est des vacances à l'île Maurice. 15 Alzheimer qui oublient de manger, c'est du champagne au dîner. Au lieu d'être une charge pour tes proches, tu permettras à des tas de gens de se remplir les poches. Et quelle plus belle fin de vie que de faire plaisir à autrui. Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en voilà une façon charmante de dire donnez-nous votre pognon, les vieux c'est un bon filon.
Merci.
Si je me suis trompée sur le premier refrain, vous faites comme si vous n'avez pas entendu.
Non, mais non, on n'avait vraiment pas entendu. Non, non. On n'a pas entendu, on va refaire la promo de Cécile Mestre-Chabrol. Guédré, je rappelle que vous êtes en tournée et que vous jouerez à Namur en Belgique ce samedi, le 12, le 20 à Drocourt dans le Nord et le 15 avril au Café de la Danse de Paname Baby.
Même qu'il est 17h36 et que vous écoutez par Jupiclas, et ça c'est formidable, continuez comme
et
ça.
Et Guillaume, continuez sur votre élan, dites-nous qui est autour de la table.
Alors, oh là là, il y a vraiment du beau monde aujourd'hui. Alors, c'est pas les plus jolis physiquement peut-être, mais ils sont sacrément intelligents. En fait, pas non plus les plus intelligents, enfin bon, voilà, ils tiennent la route. Enfin, ils sont là. On va faire avec. Alors, on a déjà entendu Juliette Arnaud, Hippolyte Girardot. C'était fou! J'en ai eu les poils. Il nous reste Laëlia Véron et Cécile Mestre-Chabrol. Et tout le monde a hâte. Je suis moi-même comme un dingue. Mais avant cela, il y a moi!
Oui!
Cachez votre joie! Oui. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite leçon d'usurpation d'identité, les enfants. Alors, on a un bon exemple aujourd'hui, puisque Juliette essaie de se faire passer pour Charline depuis tout à l'heure. Elle dit oui, comme ça, elle est de mauvaise foi. Elle boit du vin chaud. Enfin, Charline, quoi, voilà. Mais on voit bien que c'est pas elle. Non. Mais des fois, c'est plus dur. Par exemple, sur Facebook, je suis tombé sur une page qui s'appelle Guillaume Meurice officiel. Alors je me suis dit, bah merde, c'est lui ou pas? Ça m'a mis le doute, c'est lui, parce que moi j'adore ce gars-là, j'adore Guillaume Meurice, je sais pas vous, je parle pas d'humour, hein, mais en termes de gainage, c'est vraiment un cadeau dans sa discipline, moi je suis fan. Alors je l'ai contacté, parce que sur Facebook on peut écrire aux gens, alors je lui dis, bah salut Guillaume Meurice, j'aime beaucoup ce que vous faites, bravo, et miracle des internets, il m'a répondu, alors là sympa, j'étais sympa Guillaume Meurice, et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, il va pas très bien, il a des soucis financiers, il m'a demandé de l'argent, a priori il galère pas mal en ce moment, il lui fallait 600 euros. Alors moi j'ai dit ok, parce que moi je suis fan de Guillaume Meurice, mais pour être sûr que c'était bien le vrai, je lui ai dit alors ok, mais j'aimerais bien vous avoir 5 minutes au téléphone avant pour assurer le coup. Il a dit oui, parce que c'est ça, Guillaume Meurice il est sympa, c'est un gars sympa. Alors allons-y.
Allô.
Oui.
Bonsoir monsieur.
Oui, vous êtes Guillaume.
Oui, ben comment allez-vous?
Ben ça va bien et vous?
Ben je vais super bien.
Mais vous êtes vraiment le vrai Meurice?
Ben oui, entièrement.
C'est vrai que j'avais un doute. J'avais un rapport au fait que c'est moi, en fait, que Meurice. Ah ben, là, je vous rappelle, voilà. Alors, c'est vrai que c'est tout court, mais ça m'a fait un tout petit peu hésiter. En plus, j'adore Guillaume Meurice, hein, vraiment. Donc,
Ben, merci. Vous êtes convaincu maintenant?
Ben oui, vous avez un accent un peu sénégalais, on dirait.
Non, j'ai un peu mal à la gorge. Ce matin, je me suis réveillé... Avec des mots de gorge.
Ah ça, oui, c'est vrai que quand on a mal à la gorge, on a souvent un accent d'Afrique subsaharienne, quoi, on va dire. Ça, c'était le problème de Michel Leb, hein, d'ailleurs. Hein. Ça, on dit il est raciste. Non, s'il avait une angine, en fait. Michel, ça a été mal compris. Alors, je tiens à rassurer les fans de Guillaume Meurice, il se soigne. Hein.
Mais c'est juste ce matin, je suis allé voir le médecin, il m'a prescrit des médicaments.
Oui, parce que c'est pas l'accent que vous avez à la radio.
Ben oui.
Vous m'assurez que vous êtes bien Guillaume Meurice?
Ben, je vous assure. Non,
je crains rien. Je suis assez tranquille, mais j'étais juste un petit peu inquiet pour sa santé, c'est normal. Hein, voilà. Mais je sens que vous doutez un peu que c'est bien le vrai Guillaume Meurice. Alors je vais juste poser une petite question.
Charline et Alex, ils sont sympas.
Oui, Charline et Alex, ils font les jobs et tout se passe bien.
Ouais, et Juliette Arnaud aussi, elle est sympa?
Ben oui, très sympa.
Ah, ben, ça m'a fait douter encore plus, hein, mais bon, voilà. Mais ouais, je me suis dit, ça, Guillaume Meurice, il est tellement cool qu'il est capable de dire du bien des autres pour pas les vexer. Donc bon, j'étais rassuré, voilà, c'est lui. De toute façon, il m'avait bien rassuré parce qu'avant de l'appeler, il m'avait bien précisé par message, faites attention aux autres pages Facebook parce qu'il y en a beaucoup qui se font passer pour moi. Ben oui, alors voilà, ça m'a rassuré. Ça, il m'a bien confirmé, hein.
Ben oui, c'est d'autres pages, ce sont des faux comptes.
Ah, c'est des faux comptes, ouais.
Ils se mettent sur le net et ils commencent à dire c'est Guillaume Meurice. C'est juste pour faire mal aux gens.
C'est pour arnaquer les gens, quoi.
Ben, je pense bien,
Et vous, c'est le vrai.
Ben oui.
Voilà, d'ailleurs, je vous le dis, hein, faites attention sur Facebook si vous voyez des fausses pages Guillaume Meurice. Voilà, c'est pas sûr que c'est lui. Voilà, moi je l'ai appelé directement, voilà. Mais vous inquiétez pas, tout va s'arranger, car toute l'équipe de Guillaume Meurice est mobilisée contre ces arnaques.
Dans mon staff technique, j'ai des gens qui s'occupent des sables. Bon, on vient de rattraper environ 2 personnes.
Ah ouais.
Ils sont en prison pour une peine d'environ 6 mois.
Ah, ils sont en prison, carrément?
Ben oui.
Ils demandent de l'argent aussi, non?
Ben franchement, je ne sais pas. Ben, peut-être... C'est pour faire chanter les gens.
Oui, c'est ça. Oui. Ils demandent de l'argent et ils font chanter les gens. Alors, pas au sens premier du terme, parce que Guillaume Meurice n'a pas besoin de gens pour chanter. Car Guillaume Meurice est chanteur. je vous le rappelle. D'ailleurs, Guillaume Meurice, s'il a besoin d'argent, c'est parce qu'il a besoin d'acheter une guitare.
Ben oui, une guitare.
Mais alors, une guitare, ça coûte combien?
Ben, environ 600 euros.
Ah ouais, 600 euros. Mais vous n'avez pas les moyens de vous la payer?
Actuellement, j'ai des problèmes financiers. Je n'en parle pas trop sur les réseaux sociaux.
France Inter, c'est si mal payé que ça?
Ça, c'est des choses privées. J'aime pas trop en parler.
Non, c'est mieux de pas trop parler des salaires de France Inter, hein, surtout qu'ils vont bientôt tout privatiser. Donc ça sera réglé. Alors bon, moi, comme j'aime beaucoup Guillaume Meurice, bon, s'il écoute cette chronique, comme je me doute que s'il fait tout ça, c'est parce qu'il a réellement des galères de thunes, en plus de ce problème de santé. Hein, je vous rappelle qu'il lui donne cet accent. Ah, ça, c'est quand même formidable. Alors Guillaume, si tu écoutes, si tu supprimes cette page Guillaume Meurice officielle, dans les 48 heures, je m'engage à te filer le cachet de cette chronique. Voilà, c'est dit. Et comme dirait Charline, merci, bisous, merci. Non, merde, c'est l'autre, ça. Oh, je ne sais plus. Écoutez, ça m'a troublé, cette histoire.
Merci, Guillaume Meurice.
Mais attendez, lequel, alors? Vous dites merci, Guillaume Meurice.
Non, j'ai pas dit merci, Guillaume Meurice officiel.
Oui, d'accord.
Alors, débouchez-vous les deux.
Moi, je suis le pas officiel.
Bon, oui, soyez concentrés. Allez, maintenant, place aux exercices, et c'est moi qui démarre.
Allez-y.
Les candidats à la présidentielle ont fait leur déclaration de patrimoine. Alors,
oula.
Trouve dans la liste suivante les éléments qui sont vrais. Réponse A. Philippe Poutou touche une pension alimentaire suite à son mariage avec Kim Kardashian. Réponse B. Ne riez pas bêtement.
Non, mais c'est possible.
Réponse B. Valérie Pécresse est propriétaire du théâtre de la Michaudière. Réponse C. Éric Zemmour est propriétaire de 65% du Rassemblement National. Réponse D. Fabien Roussel possède 5 boucheries, 4 charcuteries et une boucherie chevaline. Oui, parfois dans la vie, il n'y a pas de bonne réponse.
Ah oui, je me disais, est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il y en a plusieurs?
C'est comme la vie,
Guillaume. Non, c'est beau. Alors j'ai un petit exercice pour vous, si vous voulez aussi. Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait supprimer la redevance audiovisuelle. Alors faisons un petit cours d'autonomie. Que finance la redevance audiovisuelle? Réponse A. Les blettes de la cantine de Radio France. Ah voilà, cœur avec notre système digestif. Réponse B. Les baies d'assaï d'Ali Rebéi. hein, qu'on embrasse, bien évidemment. Réponse C, les jours de congé de Charline Van Hoenacker, qu'on embrasse également. Réponse D, le gel douche du technicien de Radio France. Attention, il y a sans doute un piège là-dessus.
Merci beaucoup Guillaume, et vous trouverez les réponses sur notre page Facebook.
Oui, parce que c'est sérieux quand même, il y a des réponses, il y a un suivi, vous pouvez répondre.
Il me semble que
vraiment.
Là, il y a une question.
C'est carré.
C'est presque... Ouais,
ouais.
Si, bon bref.
Bon, c'est losange, on va dire. Voilà,
voilà c'est losange.
C'est ça.
La prochaine chroniqueuse, eh bien, si elle était un cocktail, elle serait un cocktail Molotov. Comme lui, elle disrupte. Comme lui, elle déglingue les complexités. Comme lui, elle vient en aide aux rebelles désarmés. Voici Laëlia Véron.
Ouais, la chance.
Quelle présentation. Merci Juliette.
Fais tout péter.
J'aime ça encore mieux. Allez, aujourd'hui, je voulais vous parler de grammaire et de genre. Une question qui est bien polémique, même parmi les linguistes. Et plus précisément, nous allons parler d'un accord grammatical. L'accord de proximité. C'est une règle d'accord en nombre et en genre, mais aujourd'hui, je vous parle du volet genre. En français, l'adjectif s'accorde avec le nom sur lequel il porte, par exemple, une émission hilarante. Mais lorsqu'il y a plusieurs noms et qu'un adjectif porte sur l'ensemble des noms, on peut distinguer deux règles. Il y a la règle que nous connaissons le mieux, qui est enseignée actuellement, celle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Il suffit d'un nom au masculin pour que l'adjectif passe au masculin. Par exemple, si je prends un exemple printanier, pour changer un peu, j'ai fait un bouquet avec des coquelicots, des roses, des tulipes frais. Mais il y a une autre règle, celle de l'accord de proximité. L'adjectif s'accorde alors avec le nom le plus proche. J'ai fait un bouquet avec des coquelicots, des roses et des tulipes fraîches. Dans un cas, le masculin l'emporte, dans l'autre, c'est la place.
Mais alors ça veut dire que les roses, elles n'étaient pas fraîches ?
Non mais c'est pas vrai, mais vous nous ralentissez.
Pardon,
Juliette.
Je vais me faire gronder si je dépasse le temps après.
Pour une fois, alors, j'avais compris moi.
Je continue. Quand on parle de cette règle, on entend quelquefois dire qu'auparavant, la règle de l'accord de proximité était majoritaire et qu'elle a été ensuite remplacée par la règle de l'accord au masculin par des grammairiens du 17e par pur sexisme. Comme l'a rappelé la chercheuse Marie-Louise Moreau, c'est inexact. En réalité, les deux règles étaient pratiquées, il y avait deux variantes et des grammairiens ont soutenu l'accord au masculin dans un double mouvement de régularisation des pratiques, mais aussi pour certains, hein, c'est vrai, pour des raisons extra-linguistiques. On pense à l'académicien Vaugelas, qui était assez ambigu sur ce point, et surtout plus tard, au XVIIIe siècle, à l'académicien Bozet, qui a dit notamment, ma citation préférée, « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Alors voilà, tout simplement,
c'est carré comme ça.
Il était chroniqueur sur CNews.
Ce qui est intéressant, c'est que malgré cette régularisation et malgré l'enseignement progressif de cette seule règle au masculin qui l'emporte, on continue assez inconsciemment souvent à employer l'accord de proximité parce qu'il permet l'accord phonétique entre le genre du nom et de l'adjectif. Vous aurez du mal, par exemple, à dire des chants et des danses bretons. Vous allez soit dire des chants et des danses bretonnes, accord de proximité, soit des danses et des chants bretons, accord au masculin, mais en mettant à côté le nom et l'adjectif au masculin. Et des linguistes, Anna Beyer et Chouane, ont ainsi travaillé très récemment sur nos pratiques actuelles avec des corpus extraits d'Internet et ont remarqué une forte présence de l'accord de proximité qui devient quasi exclusif quand l'adjectif est antéposé, par exemple les prochaines semaines et mois, et pas les prochains semaines et mois. Et faites attention à ça, vous allez vous rendre compte qu'on l'emploie très souvent, et même sur CNews, j'ai vérifié. Mais si l'accord de proximité fait partie de nos pratiques, pourquoi ne l'enseigne-t-on pas ? Argument contre, c'est plus compliqué, ça rajoute de nouvelles règles. Argument pour, on l'emploie déjà et ça pourrait permettre une richesse phonétique, voire stylistique. Mais bien sûr, en réalité, la vraie polémique derrière tout ça, dès qu'on parle d'accord en genre, et dès que ça concerne des humains, se pose la question du lien entre langue et représentation symbolique, et donc la question de l'écriture inclusive. Je crois qu'on a réveillé un autre académicien, Guillaume alias Alain Finkielkraut, et qu'il est temps de s'arrêter. Je vous propose juste une dernière possibilité, passer au féminin générique, et je vous dis merci à toutes pour votre attention.
Merci Laëlia, merci Monsieur Finkielkraut.
C'est des gens, Guillaume se dédouble, je ne sais pas ce qu'il
ça
fait là.
Pas
fait.
Ça,
c'est pas Guillaume, c'est pour officiel.
Ça. Voilà,
voilà.
Ça.
Voilà. Allez, un petit peu de musique pour nous redétendre les nerfs à l'envers. Maintenant, Guillaume nous a crié dans les oreilles. C'est parti, fermez les yeux. On y va.
Bon moins. soleil qu'a levé. Jeudi jour, soleil qu'a levé. Oui, jeudi jour, soleil qu'a levé. Assez peine au moins. Yo dis moi, faut déplacer. Yo dis moi, faut déplacer. Qui te famille, on dépend moins, on raison. On dépend moins, on raison. On dépend moins, on chanson. Ma paix, chanté. Oh, ma paix, chanté.
C'est Delgrès, Ban Mouen en chanson. Sur France Inter. Enfin,
oh là là, France Inter. Il est 17h.
Je la connais pourtant cette radio. Sur France Inter. Par Jupiclas. Et voilà le moment tant attendu de la masterclass. Mais oui,
j'adore.
Guillaume,
j'adore
de la masterclass de cinéma. Avec Cécile Mestre-Chabrol dans le rôle de l'officiante. Nous vous écoutons religieusement.
Merci, merci de me donner l'occasion, non pas de vous offrir mes talents inoubliables de critique de cinéma, je me demande d'ailleurs si ces deux mots vont si bien ensemble, mais de retrouver cet objet appétissant que, si avide d'intime et de collectif, j'affectionne tant. Ce micro vif et tendu, offert à ma langue provocante et généreuse. Allez, venons-en au cinéma. Dans ces temps incertains, dans ces temps crépusculaires même, rien de tel qu'aller voir un film crépusculaire. C'est sûr, c'est pas très gai, mais c'est bon. Bon de revenir en arrière, au clair-obscur, au ciné sans effet, au travelling précis et sans précipitation. Parlons donc de Maigret, le film de Patrice Lecomte, d'après l'œuvre de Simenon. C'est comme de partir après une nuit de fête pour un dimanche à la campagne chez les grands-parents, ça fait du bien. On s'y languit un peu, mais on prend le temps. Comme aller chez ma grand-mère, qui étonnamment ressemblait à Henri Salvador, et qui, elle aussi, avait ses rituels et le sens du détail. La grande armoire qui grince, une petite tasse de porcelaine, du thé fumé et la boîte à gâteaux trop sec de nos rares visites. Le temps était figé, il y avait là quelque chose d'immuable, de rassurant, de suranné. Comme chez notre Gégé, qui incarne, non, qui respire Maigret. Depardieu l'authentique, Gargantua ardent et considérable, chez lui, c'est d'abord les yeux qu'on voit parce qu'il vous transperce. Il vous rentre dedans, il vous voit à ses yeux parce que lui vous regarde vraiment. Comme Maigret, il déteste l'indifférence parce qu'elle le mange à petit feu. Alors il observe pour comprendre, il se met dans la peau, il ne fait pas semblant. Il fait rarement semblant d'ailleurs, à part des fois, il fait semblant d'être con. Quand il en a marre de son intelligence, de son acuité, de sa clairvoyance. Arrête de penser, il dit tout le temps à ses partenaires. Arrête de penser. C'est peut-être à lui qu'il le dit, sorcier, surefficient, perméable à la misère comme aux plus grandes joies. Il cherche le meilleur de l'homme et quand il ne trouve pas, il part se réfugier ailleurs. Parfois dans la littérature. Souvent, il est fatigué, obsédé par la mort. La sienne qui l'attend peut-être quand il n'a plus envie de dire tout et son contraire pour garder ses plus beaux rêves en vie. Dans Maigret, dans ce film noir, le comte a réussi à le polir, à le lustrer, en tout cas à ne pas l'ennuyer. Du coup, comme il se sent bien, Gégé, il donne du mieux qu'il peut. Ce qu'il lui reste de patience et d'humanité pour ses contemporains. Avec Maigret, on est dans le portrait. Dans l'épure, il n'y a plus d'acteur hérissé. On dirait plutôt un gros matou maté.
Loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes.
Ce qui me bouleverse à chaque fois, c'est cette voix. Il y a tout dans sa voix, la force, la noirceur, la gravité, et puis, paf, quand on s'y attend le moins, une plénitude, une douceur exquise, un truc fragile, comme le son d'un très vieux violon de Zigane, du papier de soie dans un corps de ténor épuisé. Je me suis déjà demandé s'il n'était pas une femme dans un corps d'homme. Quand il parle des hommes de sa vie, c'est tellement beau. Piala, Truffaut, Carmet et les autres. Au moins une fois, c'est sûr, il est tombé en amour pour un salaud. Ça nous est arrivé à toutes, non? D'aimer un affreux, un con, un minable, une ordure, un qui nous baise bien ou juste un qui nous rassure. Est-ce qu'on pourrait lui pardonner? Ou alors il ne faudrait que condamner, critiquer, ne plus savoir que noter, envier ou comparer. La devise de Simenon qu'on pourrait tous se faire tatouer, c'est « comprendre ». Et ne pas juger.
Vrai, je ne fus pas sage.
Gérard Depardieu, c'est notre plus grand acteur. Je préfère lui dire que je l'aime tant qu'il est vivant, et encore bien vivant.
Elle fut longue, la route. Mais je l'ai faite, la route. Celle-là, qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure.
Eh bien, si Cécile, vous vendez beaucoup mieux Gérard Depardieu que vous ne vendez votre propre livre.
Je suis meilleure pour les autres que pour moi-même.
Je propose 20 secondes à Hippolyte Girardot pour faire une vraie bonne pub pour Torre Molinos chez Jean-Claude Lattès.
Il suffit de me dire ça pour que je bégaye et que je commence
je vous l'interdis.
À oublier des mots comme la pianiste tout à l'heure ou de faire des inversions de... Bref. Non, ce qui est très très drôle et qui me plaît beaucoup dans le livre... Oui, l'accordéoniste tout à l'heure.
Ne digressez pas.
Et donc, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, ça ressemble comme un... C'est comme un film, son livre. Mmh. Et c'est souvent... Très souvent, que des scènes. Et c'est l'œil qu'elle a sur les scènes. C'est quelque chose où tous les détails y sont. Les mouvements, l'humeur, mais aussi le son, exactement les cadrages, etc. Elle est tout à fait à l'aise avec M. Chabrol, qui est une sorte d'entomologiste de notre petit monde, et qui s'amusait à être cruel avec les gens qu'il aimait, et à être gentil avec les gens qu'il n'aimait pas. Et ça, c'est une façon de raconter que moi, j'aime beaucoup, parce qu'on est toujours un spectateur à la fois averti et complètement innocent face à ça.
Et de cruauté, il n'y en a pas dans Torremolinos de Jean-Claude Lattès, je tiens à le préciser. Et c'est une chose qui m'a beaucoup plu.
Exactement.
Il n'y a pas de cruauté.
Vous êtes vraiment très gentil. Merci.
On est tellement gentil qu'on dirait qu'on est des gentils. Et c'est le moment du dessin. Et je vous propose de dessiner l'un des 5 appartements d'Éric Zemmour. Oui, oui, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5 appartements. Alors, le gars, il est Stéphane Plaza, en fait, si ça se trouve. Alors, ça peut être son appartement de 100 mètres carrés à Paris ou celui de 300 mètres carrés à Vichy. Laissez court à votre imagination. Postez vos dessins sur Twitter avec le hashtag ParJupiter ou envoyez-les nous par mail sur parjupiter@radiofrance.com. Voilà, c'est la fin de cette émission.
Mais non, déjà.
Mais si.
C'est incroyable.
Merci Guillaume, merci Hippolyte, merci Cécile, merci Lalia, merci Didré.
Merci Juliette. Merci.
À demain. Merci. L'invité sera Marion Séclin. Et à la présentation, bon ben...
Demain, ça va être autre chose. Et puis après-demain, ça va être
autre chose.
Oui, par exemple. Et puis après, ça va être
autre chose.
Non, pas jusqu'à là.